France Culture.
Bonjour et bienvenue dans Culture Monde, le magazine international de France Culture, préparé avec Mélanie Chalandon, Sacha Mattei, Barthélémy Gaillard, Gwendoline Troiano et Antoinette Benoît. Réalisé par Vivian Le Cuivre et à la technique ce matin, c'est Ludovic Auger. On se retrouve après deux jours de grève contre le projet de holding qui regrouperait Radio France et France Télévisions, n'assurerait plus de budget propre à la radio publique et permettrait la création de filiales dont il serait par la suite très facile de se séparer. Ce n'est donc que le premier épisode d'une série qui n'en comptera plus que deux. Série consacrée à la santé mentale, nouvel enjeu mondial des politiques de santé. Aujourd'hui, quand l'humanitaire soigne les âmes en plus des corps.
Nous avons rencontré des psychologues ici et nous leur avons expliqué notre situation. Nous leur avons expliqué notre douleur et notre détresse après le tremblement de terre. Ils nous répondent et communiquent avec nous. Ils ont promis de nous aider, ils font ce qu'ils peuvent.
La plupart des enfants qui viennent nous voir, ils arrivent endeuillés, choqués, sidérés. Ils essayent d'oublier, de penser à autre chose, mais ces souvenirs traumatiques qui sont tellement énormes reviennent en permanence à leur esprit et les envahissent complètement psychologiquement parlant.
Partout, et surtout dans ces pays en difficulté, les malades mentaux sont oubliés. Je suis psychiatre et un de mes devoirs de citoyen et de professionnel, c'est de promouvoir le soin aux malades mentaux.
Il y a ceux qui ont déjà des troubles psychiatriques mais qui n'ont pas de quoi être pris en charge dans leur pays et il y a aussi ceux qu'une catastrophe naturelle, qu'une mise en danger de leur sécurité physique va complètement désorienter. L'épreuve du deuil que vivent par exemple en ce moment même les proches des plus de 2700 victimes du tremblement de terre en Birmanie, épreuve qui laisse des traces avec le temps sur les corps, les épaules qui s'affaissent imperceptiblement et sur les âmes quand s'effondre la muraille qu'on a bon an mal an essayé de bâtir toute sa vie contre les lois naturelles. Pour les organisations humanitaires qui accourent sur les terrains de guerre ou de calamité, il n'était pas une évidence, il y a encore 30 ans, de s'occuper de santé mentale. D'ailleurs, la notion de stress post-traumatique n'a pas toujours existé. Désormais, les organisations intègrent à leur mission des programmes de psychiatrie et psychologie humanitaire, avec toutes les difficultés que pose ne serait-ce que le décalage des temporalités entre l'urgence dans laquelle sont montées les missions et le temps long que requiert un vrai suivi psychologique ou psychiatrique. Il faut aussi surmonter les réticences, les barrières culturelles, s'assurer que l'on pourra s'occuper des enfants, ces enfants dont les parents disent souvent qu'ils vont bien. Bonjour Elisabetta Dozio.
Bonjour.
Vous l'entendez souvent cette phrase, les enfants vont bien. Vous l'entendez dans les missions humanitaires, ce sont les parents qui disent ça?
Oui, souvent ça nous arrive d'avoir un discours où les parents ou même les communautés, la population en général, a un regard envers les enfants où les enfants ils vont bien parce qu'ils sont en train de jouer, les enfants ils continuent à sourire et ça cache par contre une grande souffrance, très souvent sous-estimée, aussi quand ils sont tout petits, aussi quand ils sont bébés.
Et quand ils sont tout petits et qu'on les pense à l'abri des souffrances psychiques parce qu'ils seraient trop jeunes pour comprendre, vous le racontez dans le chapitre que vous avez écrit dans l'ouvrage collectif « Soins psychologiques en terrain humanitaire, quand trauma, étrangeté culturelle et histoire s'entremêlent » sous la direction de Maïssa El-Husseini et paru aux éditions In Press. Vous êtes psychologue clinicienne, docteur en psychologie transculturelle et vous êtes référente santé mentale et soutien psychosocial à Action contre la faim en Afrique centrale. Bonjour Laure Volmark.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes psychologue clinicienne, chercheuse associée au CRASH, c'est le centre de réflexion sur l'action et les savoirs humanitaires qui est adossé à la fondation Médecins sans frontières. Et vous faites en ce moment des recherches sur l'histoire des pratiques et des controverses d'ailleurs en santé mentale dans la section française de MSF. Il y a une autre phrase que vous avez beaucoup entendue, Laure Volmark, et que vous mettez en titre d'ailleurs de l'un de vos articles dans la revue Alternatives Humanitaires. On ne fait pas de santé mentale. On ne fait pas de santé mentale à MSF. Jusqu'à quand cette phrase a-t-elle été martelée dans cette ONG en particulier et dans les grandes organisations humanitaires en général ?
Alors, jusqu'en 1989, c'est-à-dire quelques semaines après le tremblement de terre qui a eu lieu le 7 décembre 88 dans le nord de l'Arménie, qui a été un tremblement de terre extrêmement qui a provoqué un élan d'émotion et de solidarité dans le monde entier, et notamment en Europe et en France, où il y avait une grande communauté arménienne. Et jusque-là, MSF se refusait à envoyer des psys sur les terrains humanitaires. Alors, pour plein de raisons, en partie parce que c'était une organisation médicale d'urgence, pour qui c'était pas la priorité, pour qui c'était trop compliqué. Et à la suite de l'émotion provoquée par ce tremblement de terre, mais aussi de la souffrance constatée sur le terrain par les équipes, la souffrance psychique des adultes, mais aussi des enfants, qu'on verra un petit peu plus tard, Médecins Sans Frontières a décidé d'envoyer, alors d'abord des psys qui étaient volontaires, notamment des psys arménophones ou arméniens, qui s'étaient portés volontaires pour aller porter secours en Arménie, et puis peu à peu a mis en place son premier projet véritablement pédopsychologique.
Ça s'est fait spontanément ou c'est le fruit d'une réflexion qui avait commencé avant au sein de MSF ?
C'est difficile à dire, disons que c'est probablement un peu les deux. Il y avait quand même des débats à ce sujet, mais jusque-là, MSF avait plutôt tranché contre le fait d'envoyer des psys sur le terrain, même s'il y avait des psychiatres qui travaillaient comme médecins généralistes déjà dans l'humanitaire. Et disons que cet événement-là, conjugué d'une certaine manière à l'ère du temps, c'est-à-dire le fait que peut-être il y a une forme de démocratisation aussi, alors de ce qu'on n'appelle pas encore la santé mentale à l'époque en France, mais on va dire de la psy en général, la psychologie, la psychiatrie, la psychanalyse.
C'est tout ça, hein, quand on dit les soins psy en humanitaire, ça regroupe toutes ces disciplines en même temps.
Oui, alors maintenant ça peut-être qu'Elisabetta Dozio en parlera aussi, ça recoupe aussi le soutien psychosocial. Mais à l'époque, voilà, ce qu'on a en tête, c'est deux catégories de personnel, les psychiatres et les psychologues, qui sont souvent en France orientés par la psychanalyse, qui est, disons, la théorie très dominante à l'époque.
C'est le cas de Marie-Rose Moreau, d'ailleurs, qui chapeaute cette mission en Arménie, qui porte le projet, qui a pour sa part des références psychanalytiques. Quand ces équipes de MSF arrivent sur place en Arménie, à quels symptômes sont-ils confrontés dès le départ ?
Alors, en fait, c'est d'abord les équipes médicales qui remarquent qu'il y a beaucoup de personnes qui reviennent dans des consultations avec des douleurs qui n'arrivent pas à passer. Il y a une ancienne directrice d'MSF qui parlait de mal partout. On avait 40 à 60% de mal partout. Et donc, les équipes n'arrivent pas à répondre à ces douleurs. Et chez les enfants, les parents viennent avec des enfants qui ne dorment plus, qui sont très agités ou très apathiques, qui souffrent d'énurésie nocturne,
qui font pipi la nuit,
voilà, qui sont perturbés, voilà, et qui inquiètent beaucoup et les parents et les humanitaires, sachant qu'à ce moment-là, ce qui se passe aussi, c'est que les besoins médico-chirurgicaux sont couverts, en fait. Il n'y a plus vraiment besoin, par exemple, d'envoyer des chirurgiens. Et on se rend compte donc que c'est la souffrance psychique qui est la plus importante dans les consultations. Voilà.
Elisabetta Dozio, quand on parle de la façon dont les équipes humanitaires doivent prendre en charge la santé mentale, à l'époque et jusqu'à aujourd'hui, est-ce qu'il s'agit de se concentrer sur les traumatismes liés à une catastrophe ou à une crise, à une guerre, ou aussi de prendre en charge des pathologies chroniques qui ne le seraient pas prises en charge justement dans les pays où ils arrivent? Parce que on dit, je crois que c'est l'OMS qui dit que dans les pays où à bas revenus, les professionnels de la santé mentale, ils sont 2 pour 100 000 habitants, donc ils sont très peu. Mais quand les humanitaires arrivent, est-ce qu'ils doivent opérer une forme de tri?
Oui, il y a plusieurs réponses. Avant de la question du tri, c'est vrai que dans les situations d'urgence humanitaire, les besoins sont importants et on a une facilité à identifier, à mettre des mots sur tout ce qui est les stress post-traumatiques, donc tout ce qui est trauma psychique, qu'aujourd'hui c'est assez connu. Mais en réalité, il y a relativement petit pourcentage de population qui est affecté par du traumatisme psychique. Et oui, bien sûr, on va les prendre en charge, mais il y a des troubles associés au traumatisme, que sont la dépression, l'anxiété, et une dépression peut être si grave comme un traumatisme, parce que ça va empêcher que ce soit des parents de prendre soin de leur enfant. Donc, les mères qui ont des enfants tout petits ne seront pas en mesure de s'occuper de leur enfant, de leur donner les seins, par exemple, à allaiter. Donc, ce qui ça signifie aussi mettre en danger des vies aussi les jeunes enfants, mais l'anxiété aussi, et il y a une souffrance psychologique qui va au-delà de tous ces troubles qui sont identifiés. Donc, ma collègue elle parlait précédemment de tout ce qui est psychosocial. Il y a aussi une dimension de la crise qui va affecter aussi au niveau communautaire, mais aussi familial. Tout ce qui peut être les réseaux communautaires, donc la capacité de se prendre en charge, les liens aussi, une souffrance plus large au niveau psychique et psychosocial qui va au-delà de tout ce qui est pathologique et trouble. Et oui, bien sûr, quand on est un humanitaire, on va essayer de prendre en charge la souffrance psychologique. Moi, je tiens beaucoup à nuancer, quand on écrit les projets ou quand on propose les soins, qu'on ne traite pas qui est le traumatisme psychique, mais la détresse psychologique, qui veut dire plein de choses. Dedans, il y a vraiment les signes de détresse qui sont très larges. Et je suis convaincue qu'il faut se donner les moyens d'avoir cette vision plus large et où on traite bien sûr l'individu, mais aussi l'individu dans sa famille et dans sa communauté. Et forcément, les besoins sont importants. Parce que quand on a une crise, que ce soit une catastrophe naturelle, que ce soit une guerre, c'est pas deux, trois personnes qu'on parle, donc c'est immense. Et oui, c'est ce que vous dites, certainement, est-ce qu'il faut faire un tri? Oui, parfois on est dans les conditions de devoir faire un tri, parce qu'il faut prioriser à un certain moment la souffrance, parce qu'on n'aura pas les moyens de répondre à tous ces besoins en termes des ressources humaines et des capacités pour répondre à tout ça.
Trier, entre guillemets, aussi ce qui relève d'une réaction normale à une situation de violence et celles qui vont au-delà de cette normalité avec tous les débats que peut supposer cet emploi de l'adjectif normal. Pour répondre à la question qu'on se posait avec Laure Vollemark, quand on dit des missions psy-humanitaires, de quel professionnel ce psy est-il le préfixe? Est-ce qu'on parle des psychiatres, de psychologues, de psychanalystes? Lesquels est-ce qu'on trouve le plus dans l'humanitaire?
On trouve un peu de tout ça, dans le sens qu'il faut faire une distinction entre est-ce qu'on est en train de parler des expatriés, donc est-ce qu'on est en train de parler des personnels qu'on envoie dans les pays qui sont affectés par une crise et qui n'ont plus les moyens de se prendre en charge ou qui n'ont pas des professionnels, comme vous disiez, qui n'ont pas des professionnels de la santé mentale parce que les universités ne sont pas équipées, parce que c'est une discipline relativement jeune encore dans plein de pays, c'est jeune aussi dans nos pays, donc en Occident. Donc relativement jeune dans les pays où on travaille en humanitaire, donc avec très peu de disponibilité pour des larges besoins. Donc oui, quand on envoie des personnels expatriés, c'est plutôt des psychologues et des psychiatres. Et après, on travaille en humanitaire avec tout ce qui est personnel local. Donc aussi, c'est le cas, par exemple, d'Action contre la faim. On envoie un expatrié, un psychologue, pour la plupart des cas. On a moins des psychiatres dans ce qui nous concerne. Donc un psychologue qui va travailler avec une équipe locale. Et l'équipe locale peut être composée de plusieurs profils. Et souvent, c'est ce qu'on appelle les travailleurs psychosociaux, qui n'ont pas forcément un background ou une formation en santé mentale. C'est ce qu'on appelle des paraprofessionnels, des non-professionnels de la santé mentale.
Action contre la faim, par exemple, travaille avec l'université de Bangui, en Centrafrique, avec des stagiaires qui viennent de la faculté de psychologie et qui viennent abonder les effectifs. Alors, vous parliez de stress post-traumatique. Laure Vollemark, quand est-ce que cette notion-là apparaît? C'est-à-dire quand le tremblement de terre survient en Arménie à la fin des années 80 et que cette équipe de Médecins sans frontières arrive, est-ce que déjà on parle de cette notion de stress post-traumatique? Est-ce que ça existe?
Alors là encore, je vais répondre un peu oui et non.
Mais c'est toujours bien de mettre de la nuance, allez-y.
Ça existe au sens où, par exemple, le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux de l'Association américaine de psychiatrie l'a inscrit dans son manuel depuis 1980 pour les adultes et 1987 pour les enfants. Donc juste
c'est vraiment un manuel qui fait référence, hein, pour bien expliquer.
Qui fait encore plus maintenant référence qu'à l'époque, mais qui s'est vraiment, dont les catégories se sont propagées dans le monde entier, sont utilisées dans le monde entier. Donc ça existe, et puis ça existait bien avant, puisque la question du traumatisme psychique est au centre, par exemple, des questions que se pose Freud sur les causes des névroses dès la fin du 19e siècle et le début du 20e siècle, avec des hésitations autour du statut à donner au traumatisme psychique, c'est-à-dire aux événements externes sur les troubles psychiques.
Et ça,
pour le dire très largement.
Et là, vous racontez dans Alternatives humanitaires que Marie-Rose Moreau, quand elle arrive en Arménie, elle a avec elle dans l'avion plein de livres, enfin plein, je sais pas, mais elle a ciblé quelques livres de plutôt de personnalités écrites pendant la Seconde Guerre mondiale ou après, en tout cas des praticiens qui ont exercé notamment auprès d'enfants pendant la Seconde Guerre mondiale.
Voilà. Mais pour autant, elle se réfère pas directement au psychotraumatisme à l'époque, au traumatisme psychique. Elle parle de troubles réactionnels, de souffrances réactionnelles. Et aussi, à juste titre, parce que ce qu'elle observe, elle, quand elle va sur le terrain, ce qu'observent les psychologues, ce sont aussi, c'est tout ce qui touche en fait au deuil compliqué, à la douleur liée au deuil, et pas seulement au traumatisme au sens strict de la réaction à un événement. Donc c'est plus compliqué déjà à l'époque, et elle s'adosse pas encore beaucoup sur cette notion, ça viendra après, et aussi donc elle a pour référence la psychanalyse, mais dans le champ humanitaire aussi, la question transculturelle va être très importante, et Marie-Rose Moreau, mais comme d'autres qui viendront après elle, s'intéresse beaucoup à, par exemple, aux souffrances psychiques des exilés en France, dans une dimension transculturelle, et c'est avec aussi ces questions-là, cette expérience-là, qu'ils partent sur les terrains humanitaires.
Donc il y a un bagage théorique à la fois de ces penseurs ou de ces psys, pour le dire très vite, que Marie-Rose Moreau apporte dans ses bagages. Il y a aussi le terrain, tout simplement. Ronnie Broman, qui était président de MSF à l'époque, vous raconte qu'il a été très difficile pour les équipes de laisser derrière elles un champ de ruines matérielles et psychologiques compte tenu des relations affectives très fortes qui s'étaient nouées sur place après le tremblement de terre. Et c'est pour ça qu'il décide dans un second temps d'aller mener des missions psy à un petit peu plus long terme. Donc c'est à partir de la fin des années 80 qu'on commence à intégrer la santé mentale dans les programmes humanitaires, avec des tâtonnements, leur volmarque, des égarements, voire des erreurs avec le recul. Est-ce qu'il y a des choses qui vous posent question dans ce qui se fait à l'époque et les années suivantes ?
Alors, oui, à moi, voilà, ouais. À moi et à d'autres, je pense bien sûr à ce qui... Donc, on saute 15 ans, on arrive en 2004, 2005, après le tsunami qui a touché notamment l'Indonésie, mais aussi le Sri Lanka, la Thaïlande, où là, il y a, comme en Arménie, un élan de solidarité, d'émotion internationale très important, des dons très important qui arrive dans les organisations humanitaires et qu'il s'agit d'utiliser sur le terrain. Mmh. Il y a beaucoup de programmes, mais pas seul. Je veux dire, la question n'est pas seulement les programmes psychosociaux et de santé mentale, mais énormément d'organisations qui mettent en place des programmes psychosociaux et de santé mentale, mais à l'époque sans coordination. Et à partir du tsunami, il y a eu une réflexion critique, je pense aussi, de l'humanitaire sur est-ce qu'on n'a pas nui, ce qui est la base de l'éthique du soin, qui est de ne pas nuire. Est-ce qu'on n'a pas dupliqué des programmes? Est-ce qu'on a bien utilisé l'argent des donateurs? Et donc à partir de là, il y a notamment un manuel qui sont des directives d'un comité interorganisation sur comment mettre en œuvre des programmes de santé mentale et de soutien psychosocial sur les terrains humanitaires, avec qu'on peut discuter avec le recul du temps, mais qui est dans cet effort de faire mieux.
Des protocoles, on pourra en parler bien sûr aussi tout à l'heure, des protocoles qui se mettent en place et à partir desquels j'imagine que les humanitaires ensuite composent avec la réalité du terrain, enfin j'imagine, et on le souhaite tous. Elisabeth Adosio, par exemple, Laure Vollemark raconte dans un article qu'en Indonésie, il y a tout un débat sur des psys qui à l'époque voient des groupes d'enfants à qui on fait dessiner, redessiner la vague, et on se demande si ça peut pas figer les choses, figer un traumatisme et être finalement contre-productif. Alors faire dessiner une vague à des enfants qui ont vécu un tsunami, j'ai aucune qualification pour dire si c'est pertinent ou pas. En revanche, est-ce que les équipes psy des organisations humanitaires qui travaillent autant dans l'urgence que leurs collègues médecins, ou est-ce qu'ils s'investissent à plus long terme, en l'occurrence pour suivre les enfants qui ont vécu le tsunami et pas seulement pour le leur faire dessiner sur un coin de table sans savoir les effets que peuvent provoquer à plus long terme le fait de dessiner une vague ?
Je ne peux pas parler pour toutes les organisations. Donc je sais comment aujourd'hui on pense les interventions et vous nommez les protocoles. Alors c'est vrai que les protocoles, ça peut être quelque chose de très pensé, de très rigide, surtout si on vient d'une pensée très psychanalytique, un peu classique en France. En vrai, à l'origine, les protocoles, au-delà des protocoles qui sont mis en place pour l'Organisation mondiale de la santé, donc l'OMS, même nous, à Action contre la faim, à un certain moment, on a ressenti les besoins de mettre en place ce qu'on dit, entre guillemets, les protocoles. Ils sont nés de la base du fait que, ce que je disais tout à l'heure, souvent on n'a pas de psychologues sur place. Souvent on a des non-professionnels de la santé mentale qui sont recrutés sur la base, j'exagère pas, et parfois c'est vraiment des personnes qui ont une bonne sensibilité, qui ont la possibilité d'avoir une proximité avec les populations. On est aussi dans des contextes où, par exemple, les femmes, elles ont peu étudié. Et si on veut travailler avec des femmes enceintes autour de la périnatalité, sur la dépression, par exemple, postpartum, on doit pouvoir avoir accès à ces femmes. Et un homme, il ne pourrait pas y aller. Donc ça veut dire que si je dois travailler avec une femme qui n'a pas eu des études, je dois baisser forcément mon niveau d'attente au niveau professionnel. Donc on parle à professionnels ou non professionnels de la santé mentale qui vont avoir accès à la population, mais aussi accès à des femmes enceintes, par exemple, ou à des femmes qui ont des petits bébés, pour pouvoir travailler sur la dépression périnatale. Et du coup, il faut les outiller. À un certain moment, ces personnes, ils ont besoin, je me suis rendu compte il y a quelques années, en 2016, c'était pendant une visite en Centrafrique, à Bangui, où j'avais un psychologue expatrié qui avait bien formé son équipe des paraprofessionnels qu'on avait recrutés. Ils étaient bons, ils ont travaillé depuis quelques mois avec. On avait fait une formation initiale et puis bon, ils travaillaient dans des sites de déplacés. Et ils étaient un peu en difficulté. Quand j'ai fait ma visite, on a discuté un peu avec l'équipe, un peu en difficulté, parce que oui, bien sûr, la première fois qu'on rencontre la population en souffrance, on sait dire un peu, on fait une anamnèse, on discute un peu, on comprend un peu la problématique. La deuxième fois encore, plus ou moins, et après on ne sait plus quoi faire, parce qu'on n'est pas des professionnels de la santé mentale. Et donc, la naissance de ces protocoles, c'était un peu aussi pour protéger les équipes aussi, et pour leur donner quand même un projet thérapeutique qui faisait sens, et donc qu'on n'allait pas juste à faire dessiner, comme vous dites justement, des enfants. Qu'est-ce qu'on fait dessiner? Qu'est-ce qu'on va figer? Et quelle image on va figer avec toute l'importance qui va prendre cette image qui reste figée sans être élaborée par la suite? Et donc des protocoles qui font que oui, on va faire dessiner les enfants, mais dans un cadre thérapeutique où il y a un avant ou après, et on va mettre ces dessins en perspective avec un passé où il n'y a pas de trauma et où on est en projection vers le futur, où oui, on s'ouvre vers quelque chose, on travaille sur les ressources qui sont internes et externes et ses enfants, et pas figer les moments traumatiques en soi.
Donc ces petits protocoles, ce sont des guides qui font quoi, une cinquantaine de pages, je crois, leur Volmark, que les humanitaires ont toujours avec eux quand ils arrivent sur un terrain de crise. Non, vous voulez, Elisabetta Dozio, y répondre?
C'est juste.
Et qui disent quoi, pardon, surtout? Enfin, c'est une liste de choses à faire et à ne pas faire, par exemple, parce que vous semblez aussi intéressé par ce que ces protocoles disent que par ce qu'ils ne disent pas.
Il y a ce qu'il faut faire et ce qu'il faut faire et pas faire, plus ou moins. Oui, il y a des indications très pratiques, très pratico-pratiques pour aider les psychologues. Même, il y a souvent des psychologues expatriés où c'est la première mission en terrain humanitaire. Et donc, ils ont toujours travaillé en France ou en Occident ou en Europe avec un cadre qui ne va pas être le même cadre de ce qu'ils vont retrouver en terrain humanitaire. Et donc, avoir ces protocoles, avoir ces guides peut les aider, surtout quand ils sont jeunes, expérimentés dans leur pays, mais inexpérimentés par rapport à cette clinique humanitaire et de la rencontre avec l'autre, avec une représentation de la souffrance qui est différente, donc qui va les aider, il va les guider au moins sur un premier niveau, sur un premier moment, pour former aussi les équipes. Donc oui, les équipes, ils peuvent avoir une espèce de caneva qui va les aider à suivre une certaine trame. Ils peuvent s'approprier quand même les soins, ils peuvent avoir il y a quand même moyen de s'approprier, de ne pas les voir si rigides, comme ils ne sont pas si longs, ils ne sont pas en cinquantaine de pages, ils sont plus courts.
Ils sont un peu plus courts, d'accord. Néanmoins des guides qui donnent comme ça un canevas dont après il faut pouvoir se séparer ou s'éloigner ou mettre en débat quand on est ensuite confronté à une réalité, la réalité locale d'un pays qu'on ne connaît pas bien. L'humanitaire intervient par définition sur des terrains d'urgence où qu'ils soient, ils ne connaissent pas souvent le pays où ils arrivent et encore moins les us et coutumes que seul un travail au long cours peut aider à comprendre dans toutes ses subtilités. Leur Volmark, cette question de s'adapter au contexte local, de quelle façon les humanitaires, qu'ils aient été en Arménie dans, à la fin des années 80 ou beaucoup plus récemment sur d'autres terrains, vous en parlent? Est-ce qu'il y a des exemples de pratiques ou de représentations dont on réalise un jour sur le terrain qu'elles ne coïncident pas à la situation qu'on a devant les yeux?
En fait, c'est pas si loin de la question des guides et des protocoles, donc qui se sont effectivement multipliés hein, depuis, on va dire, le milieu des années 2000, jusqu'à voilà des programmes de l'Organisation mondiale de la santé qui s'appelle Combler les lacunes en santé mentale, qui sont des protocoles qui seraient utilisables sur tous les terrains. Je pense aussi, voilà, il y a une pyramide qui est très connue maintenant, qui montre les degrés, voilà, que les, par niveau, comment mettre en place des projets humanitaires, du moins spécialisés, enfin, du plus généraliste au plus spécialisé en termes, disons, de soins psychiatriques et psychologiques. Mais évidemment, cette schématisation, elle peut pas répondre à la diversité à la fois des contextes, mais aussi des problématiques psychiques qu'on peut rencontrer sur le terrain. Médecins sans frontières a mis en place des missions et des projets de soins très divers, à la fois en fonction effectivement des contextes, des cultures, mais aussi du type de soins. Par exemple, c'est moins connu, mais Médecins sans frontières comme Médecins du Monde et d'autres organisations font de l'humanitaire en Europe auprès des populations exilées, souffrant parfois de traumas ou qui ont vécu des violences et des tortures et qui sont dans une détresse sociale en Europe. Mais aussi, il y a des projets de soins, je pense à un projet au Malawi, de prise en charge du cancer du col, de l'utérus, dans lequel il y a aussi une dimension palliative et de santé mentale. Il y a donc des projets de soins pour les personnes qui souffrent de soins de pathologies psychiatriques chroniques qu'on a mis en place à MSF, en tout cas, à partir des années 2010. Et donc, il y a la diversité des problématiques psychiques non couvertes dans le monde. Et ensuite, l'adaptation nécessaire à, comme disait ma collègue, à des contextes où il n'y a pas de personnel formé du fait du manque d'universités, du fait de la démographie médicale, des contextes où on a besoin aussi de comprendre hein, la manière dont on pense les maladies dans le monde.
Est-ce que les projets psy, pour le dire vite encore une fois, Elisabetta Dosio, peuvent ne pas être acceptés par les populations concernées, qu'elles aient l'impression qu'on leur impose ou qu'elles ne comprennent pas, qu'on ne prenne pas le temps de leur expliquer le sens de cette mission-là?
On prend les, pour éviter ces risques, pour éviter que ce soit quelque chose qui arrive et qui est à imposer, on prend vraiment le temps de sensibiliser au niveau communautaire. Donc, quand on arrive, c'est pas qu'on arrive et on commence un programme de soutien psychologique dans un site de déplacés, dans un village qui avait été attaqué par des rebelles. On n'arrive pas en disant, ben là, on va faire de la psy. Et ici, il y a cette maison ou cette structure qui vous accueille, venez quand vous avez de la souffrance. Ça fonctionne pas de cette façon. Il y a vraiment tout un travail des sensibilisations des communautés sur qu'est-ce que c'est la santé mentale et aussi comprendre eux comment elles se représentent la santé mentale, qu'est-ce que c'est les bien-être, qu'est-ce que ça veut dire aller bien, qu'est-ce que ça veut dire aller mal, comment on l'exprime, vers qui on va déjà naturellement au niveau communautaire pour traiter ces symptômes ou ces difficultés. Donc qu'est-ce qui existe déjà localement, qu'est-ce qui a été détruit par la situation de la crise.
Et oui, parce que les souffrances psychologiques elles-mêmes et leurs symptômes peuvent prendre un sens différent selon le contexte social et culturel. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête.
Absolument.
Par exemple par exemple, des manifestations que d'aucuns jugeraient ici comme d'un trouble mental qui peuvent ailleurs être prises comme une forme de, je sais pas, d'un esprit qui nous visite ou quelque chose comme ça. Donc ça doit être pris en compte.
Oui.
Ça vous arrive souvent en Afrique centrale, notamment où vous travaillez.
Dans plusieurs pays. Donc, je suis dans plusieurs pays d'Afrique centrale, mais j'étais aussi à Haïti, en Asie. Donc, ça m'est arrivé vraiment dans ma pratique professionnelle tout le temps. Alors, c'est vrai que la question du temps, l'urgence humanitaire est toujours un peu compliquée. Mais on se doit d'essayer de comprendre les représentations locales si on veut traiter aussi, si on veut vraiment rentrer en relation avec l'autre pour travailler dans quelque chose, dans une clinique qui fait sens pour l'autre. Oui. Autrement, on ne pourra pas accéder à sa souffrance ni à trouver des solutions à sa souffrance si on n'arrive pas à comprendre sa représentation des sens.
Et vous expliquez aussi dans le livre que parfois certains pensent qu'ils seront rétribués en échange de leur participation à des groupes de travail, des groupes thérapeutiques et que c'est difficile d'expliquer toujours le sens. Laure Vollemark, vous vouliez ajouter quelque chose?
Oui. À la fois, en fait, je trouve que de mon expérience aussi, puisque j'ai été sur le terrain, mais aussi de mon expérience donc en Europe auprès de populations exilées, on a souvent cette question de est-ce que les personnes vont accepter. Et en fait, je trouve que globalement, une offre d'un espace de parole ou d'un espace de soutien est toujours plutôt bien reçue. Après, il y a eu des critiques donc depuis les 35 ans qu'on fait de la santé mentale, on va dire, au sens large dans l'humanitaire. Il y a eu des critiques sur l'idée, par exemple, autour du trauma, que c'était une notion très occidentale ou très individualiste de la psyché. Et que,
qui se concentre trop sur les symptômes pour les psychanalystes.
Exactement. Il y a eu différentes critiques. Et avec l'idée qu'on importait finalement des schémas de soins qui n'étaient pas adaptés au terrain d'intervention. Et alors, ce qui est donc ces critiques-là, elles sont importantes. Il faut en tenir compte et en même temps, je crois que pour une notion comme le trauma, mais je sais pas la dépression peut-être aussi. Au fond, on se rend compte qu'il y a quand même dans des expressions différentes des symptômes, une rencontre qui est possible parce que dans tous les pays du monde, les gens souffrent, de ce qui se passe autour d'eux. Par exemple, sur la prise en charge des personnes qui souffrent de pathologies psychiatriques chroniques, comme des schizophrénies, par exemple, on se rend compte que il y a des projets de soins qui sont très très bien acceptés. Je pense à un projet au Liberia qui est très 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 bien accepté par les communautés parce que il y a un besoin de soins qui est énorme et qui est non couvert.
C'est ce que l'ethnopsychanalyse appelle aussi universalité psychique. Il y a quelque part où tout le monde se comprend, où on comprend ce que c'est qu'un trouble mental et la façon de le soigner, Elisabetta Dosio.
C'est plutôt dire que tout être humain a une dimension psychique et de la souffrance. Donc on souffre tous, peu importe l'étiquette qu'on va mettre, trauma, dépression, anxiété, peu importe. L'important, c'est vraiment reconnaître que chacun a de la souffrance. Et que si on est ouvert à l'autre, à ses représentations, oui, bien sûr, on peut les prendre en charge, quand bien même on peut avoir des références théoriques qui sont différentes par rapport aux références théoriques des pays où on voit.
Des références théoriques différentes et surtout un temps de travail, une temporalité de l'humanitaire et ses contraintes qui imposent aussi d'aller assez vite. Les fenêtres d'intervention sont très courtes, la réponse humanitaire dépend des financements d'agences, en général pour 3 à 6 mois. Le fait même de ne pas savoir, leur Volmark, si une mission va pouvoir continuer au-delà de 3 à 6 mois, est-ce que ça change la nature des soins, ce qu'on peut proposer aux populations que l'on rencontre et la façon dont on intervient?
Alors cette question de la temporalité des soins psychiques, elle inquiétait beaucoup, par exemple, à MSF avant cette première mission en 89. C'était une des raisons pour lesquelles on se dit, on peut pas faire de santé mentale dans l'humanitaire parce que la temporalité des soins qui est longue, qui peut pas être sur le moment même, qui doit se développer dans le temps, etc. Elle inquiétait les médecins qui disaient, ça sert à rien d'envoyer des psys. Et puis on s'est rendu compte, en faisant, je dirais, que bien sûr qu'il reste une tension, disons, entre la temporalité de l'urgence et la temporalité du soin psy, mais il y a eu plein de tentatives pour prendre en charge au plus tôt, par exemple, au plus vite, après les événements, et aussi, dans une organisation comme Médecins Sans Frontières, je peux parler que d'MSF, des projets qui ont duré très longtemps. Il y a un projet de soins psy à Naplouse,
en Cisjordanie,
qui existe depuis 2004. Le projet dont je parlais au Liberia, il existe encore, il a été ouvert en 2017. Donc on peut aussi penser les deux, on peut penser selon l'épaule de l'urgence, mais aussi d'une certaine durée.
Certaines missions peuvent durer dans le temps, d'autres ne le peuvent pas. Elisabetta Dosio, comment on fait pour ne pas créer ce qu'on appelle une dépendance thérapeutique? Le fait que commencer un travail avec une personne qui a été traumatisée par une guerre, une crise, une catastrophe, ne soit pas ensuite encore plus affecté par le fait que les humanitaires s'en vont.
Oui, il y a la dimension de la dépendance, donc sur le long terme, ça c'est sûr. Ça, l'idée, c'est de ne pas créer une dépendance par rapport à un espace d'écoute ou à des soins qui pourraient plus être là dans le temps. Vous avez nommé les financements, mais c'est pas toujours la temporalité une question des financements. C'est vrai qu'il y a des projets qui peuvent être financés sur un temps court. Il y a des questions parfois, et c'est le cas dans plusieurs pays où je travaille aujourd'hui, en conflit, que ce soit en RDC, au Congo, à l'est du Congo, où la crise est toujours en cours, les populations sont très mouvantes, par exemple. Donc la temporalité des populations déplacées, par exemple, qu'est-ce que ça veut dire démarrer quelque chose quand on ne sait pas pour combien de temps on peut avoir la personne. Donc c'est pas juste question les financements va finir, je peux avoir un financement d'un an, deux ans, c'est rare dans un contexte de crise, mais ça peut être renouvelé dans les temps. Mais quand les personnes se déplacent, il faut pouvoir imaginer des interventions qui sont courtes, ou quand par exemple c'est un contexte dangereux et donc on ne sait pas si les lundis d'après on a donné rendez-vous, mais on pourra y aller pour ne pas mettre en péril nos équipes mais aussi la population. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Donc penser quelque chose qui est court sans, encore une fois, n'épanouir. Donc ne pas ouvrir et ne pas travailler peut-être sur les traumas, donc pas aller sur des choses traumatiques, travailler sur d'autres éléments. Ça peut être ce qu'on appelle souvent une régulation émotionnelle, donc quelque chose pour outiller les personnes à faire face à la crise sur les moments, mais pas forcément ouvrir à ces moments-là, parce que si on parle de temps, les temps du traumatisme et pas les temps de l'aide humanitaire. Le traumatisme peut se manifester après, sur un temps après, et surtout a besoin de sécurité pour être travaillé. Et souvent, quand on est dans la crise, on n'est pas dans la sécurité, ni physique, ni psychique.
D'où l'importance aussi, pour les humanitaires sur place, de réussir, avec les moyens qu'ils ont et le temps dont ils disposent, à former du personnel sur place qui ne partira pas en même temps que les humanitaires, leur veut le marque.
Alors, là encore, comme le rappelait Elisabeth Adosio, les équipes humanitaires sont composées en fait majoritairement de personnel recruté localement et un peu moins minoritairement de personnel expatrié. Et donc cette formation, elle est cruciale. Et en fait, encore une fois, donc je reviens toujours à cette première mission en Arménie. Ce qui est intéressant, c'est que dès cette première mission aussi, il y avait une idée de compagnonnage entre les psychologues, et il y avait aussi des éducatrices arméniennes et des psychologues, des éducatrices expatriées qui travaillaient ensemble, qui faisaient ensemble les soins dans l'idée d'ensuite pouvoir laisser le centre, en l'occurrence un centre de soins pour les enfants. Donc ce qui a été fait 2 ans après, hein, le centre a été repris par les personnels formés par MSF et ça a pu continuer comme ça très longtemps, puisque 20 ans plus tard, Marie-Rose Borot, puisqu'on l'avait citée, est retournée voir ce centre qui tournait toujours. Donc il y a vraiment l'idée, une importance de laisser quelque chose derrière soi, de pérenniser des actions, mais c'est pas toujours possible, surtout dans les contextes de crise, de guerre. En fait, on n'est pas tenu non plus à l'impossible, même s'il y a cet effort de formation, etc.
Et que ce soit des personnels locaux ou des expatriés, comment cette fois on prend soin de la santé mentale des humanitaires? C'est aussi une question qui se pose dans toutes ces missions et une réflexion qu'il y a au niveau des ONG, Elisabetta Dozio.
Oui, c'est plus qu'une réflexion. Il y a des actions aussi qui sont mises en place pour la santé mentale, que ce soit des expatriés qui sont quand même exposés à des contextes compliqués, donc des souffrances, et aussi des contextes qui sont différents par rapport à d'où ils viennent. Donc, ils peuvent être en difficulté à certains moments. Donc, oui, il y a ce qu'on appelle des soins des staff care, donc destinés effectivement au personnel, aux équipes, que ce soit expatriés, mais aussi les personnels locaux. Les personnels locaux qui, oui, est affecté par la crise et qui peut être aussi en souffrance par des traumatismes vicariants, donc le fait de continuer d'être exposé tout le temps à des personnes qui parlent des traumatismes, si on parle des équipes qui sont dans les soins psychologiques, mais aussi toute personne travaillant en humanitaire, mais aussi parce que souvent les personnes, et en étant le personnel local, souvent il est exposé aux mêmes traumatismes, aux mêmes difficultés des personnes qui sont en train de soigner. Et ça, c'est très compliqué.
Laure Vollemarque, en quelques mots.
Oui, alors là aussi, si on prend une dimension historique, on se rend compte que c'est venu assez tard. À partir, disons, du conflit dans les Balkans, on commence à s'interroger sur la santé mentale des personnels expatriés, puis peu à peu des personnes recrutées localement. Et c'est seulement dans les années 2010 que vraiment, je dirais, il y a eu cette prise en compte des organisations humanitaires, aussi dans un, voilà, je pense qu'on assiste aussi à une meilleure acceptation générale de la santé mentale là, sur les terrains humanitaires depuis les années 2010, mais ça s'est venu très progressivement.
Et d'ailleurs, j'invite les auditeurs qui n'ont pas écouté l'épisode de Douce France de Nora Hammadi le 14 mars dernier sur France Culture de l'écouter. On entend beaucoup de bénévoles à Calais qui parlent de la charge émotionnelle et psychique de l'humanitaire.
Chacun se cherche, les gens me stressent, l'argent des projets, tout est fini d'en fesse, à côté un seul, voilà grossesse, y'a la santé, c'est l'essentiel, sinon le reste appartient. Y'a mouté les gars tournés, 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 y'a mouté les gars tournés. Dès qu'on t'appelle, on t'encaisse, mon là, tu n'as même pas tant d'élis. Allô, on avait tous des rêves, mais la vraie vie a tout jeté à l'eau. Tous les matins, c'est la course, ça commence bête, maman dans le confort. Donc, c'est bien pour le texte, mais ouais, le spot des réseaux du yo. On a vu toutes sortes sur les réseaux, l'eau snap dans les restos. Les toits coulent à la maison, mais tu vas pas voir dans le poste. Mais alors, ça, c'est la chic life de mon Insta. On t'achète comme tu te vends. Les gens me stressent, l'argent des projets, tout est fini d'en fesse. À côté un seul, un coup, voilà grossesse. Y'a la santé, c'est l'essentiel, sinon le reste là tient. Y'a mouté les gars tournés, 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 y'a mouté les gars tournés.
Il y a la santé, chantait en 2023 Suspect 95. C'est son vrai nom, c'est Guy Ange Emmanuel, et son pseudo Suspect 95, ça vient d'un personnage de jeu vidéo auquel il a ajouté l'année de sa naissance, 1995. Et dans cette chanson, il y a la santé. Il parle de la santé mentale et de l'importance, surtout d'en parler. Quand quelqu'un change de comportement d'un coup, peu importe comment ça se manifeste, que quelle que soit la forme que ça prend, ça doit vous alerter. On doit être attentif à ces changements et ne surtout pas juger ou en rire, écrivait-il récemment sur Facebook. Santé mentale, une urgence mondiale, c'est le thème de Culture Monde cette semaine. Aujourd'hui, quand l'humanitaire soigne les âmes en plus des corps, et c'est justement à une ONG ivoirienne que nous consacrons notre focus.
France Culture, Culture Monde, Julie Gacon.
Dans un village de l'ouest de la Côte d'Ivoire, à Tralé-Diapleu, se trouve un centre qui accueille des patients atteints de troubles mentaux. Le centre Victor Wally ne recourt pas à la contention des malades. Ici, on les laisse circuler librement, y compris dans le village, dont les habitants ont appris à les connaître et à cohabiter, comme l'explique ici à la BBC le chef du village, Lamine Dié.
Nous, ici, nous avons accepté d'accueillir les malades mentaux et nous sommes au courant de ce qui se passe à leur niveau. Je trouve un malade mental comme tous les malades. Il faut avoir l'amour pour celui-là. Il faut avoir le sentiment que la personne guérisse. C'est ça le secret entre les malades mentaux et la population.
Bonjour Alex Bichon.
Bonjour madame.
Merci beaucoup monsieur d'être avec nous. Je vous présente, vous êtes le directeur de ce centre Victor Wally. Vous en êtes aussi infirmier dans ce centre de Tralé-Diapleu en Côte d'Ivoire où vous êtes actuellement. Est-ce que vous pouvez nous aider à nous le représenter? Quelle est sa taille au centre Victor Wally et où est-ce qu'il se trouve par rapport au centre du village?
Merci d'abord en tout cas pour l'invitation. Pour faire une brève présentation, je dirais que le centre Victor Wally est situé à l'ouest de la Côte d'Ivoire, plus précisément dans la région du Tonkpi. Et nous sommes à cheval entre la ville de Mans et une petite ville qu'on appelle le Wally. Donc le centre Victor Wally est situé juste à la rentrée du village de Tralé-Diapleu et est accolé au dispensaire. C'est-à-dire que nous travaillons en collaboration avec le dispensaire rural qui prend en charge les autres pathologies et nous, la prise en charge des malades mentaux.
Vous proposez
Donc, il faut
des...
dire que,
Pardon, Monsieur Bichon, oui. On a un tout petit peu de décalage comme vous êtes en ce moment en Côte d'Ivoire. Le centre Victor Wally que vous dirigez propose à la fois des lits, je crois que vous avez un peu plus de 200 lits pour les patients, mais aussi des consultations de jour pour à peu près 200 personnes. Donc il y a à peu près tous les jours 400 personnes dans votre centre. Comment et par qui cette histoire-là a commencé dans les années 80?
Ben, il faut dire que l'histoire de la création de ce centre-là est venue lors d'un voyage d'un fils du village qui travaillait à la clinique là-bas en France. Et donc quand il est rentré, il a été accompagné par un médecin psychiatre qu'on appelait, surtout qui se nomme Philippe Bichon, qui est médecin psychiatre à la Borde aussi, qui voulait faire la connaissance du village. Et donc pendant les années 80-83, bon, il n'y avait pas de dispensaire au sein du village. Et quand ils arrivaient, il y avait des pathologies telles que le paludisme, le choléra en ce temps. Et donc pendant leur séjour, ils ont décidé de faire la prise en charge des personnes-là. Et c'est pendant la prise en charge que des parents, certains parents qui avaient des malades mentaux chez eux, qui étaient attachés, d'autres qui étaient un peu refoulés dans les maisons enfermées, ont décidé de faire parvenir ces patients-là à leur niveau. Mmh. Et donc, ils ont fait la prise en charge. Et après que ces personnes-là aient recouvert la santé, d'autres personnes aussi ont commencé à faire venir leurs patients, ceux qui avaient caché, ceux qui étaient cachés, ceux qui ne sortaient pas. Ils se sont dit, mais pourquoi ne pas envoyer ces personnes-là à Train-les-Diables pour une prise en charge? Et c'est là la demande a commencé à s'augmenter. Donc le nombre de patients qui venaient d'un peu partout de la région augmentait. Et donc dans les années 92-93 par là, le village et la délégation, la Bordienne, comme on les appelle, ont décidé ensemble de mettre en place une structure d'accueil pour ces personnes-là. Mais une structure qui ne sera pas clôturée, où il y aura une libre circulation, voilà, pour que ces personnes-là ne se sentent pas enfermées comme là d'où ils venaient.
C'est d'ailleurs cette pratique-là que connaît ce que vous appelez la délégation labordienne, donc ces médecins qui viennent de la clinique de la Borde, la clinique de Couchevernay dans le Loir-et-Cher, une clinique où justement tout est ouvert, où on laisse les patients à la fois déambuler dans le centre, mais aussi en sortir. Et cet habitant du village qui fait venir cette délégation de médecins, qui sont ses collègues, en fait, lui, il était cuisinier à cette clinique et il les a fait venir. Et tout le village connaît cette histoire à Train-les-Diables et aussi de la première personne qui a été soignée par ses patients qui s'appelait Jeannette, qui a fait donc les émules dont vous nous parliez. Quelles sont les pathologies que vous rencontrez le plus aujourd'hui, Alex Bichon?
On rencontre plusieurs types de pathologies, hein, la dépression puerpérale, la dépression postpartum, la dépression. Il y a des personnes qui viennent pour des psychoses aussi, des psychoses hallucinatoires. Il y a quelques cas de schizophrénie. Mais il faut dire actuellement, ceux qui viennent pour des bouffées délirantes aiguës sur fond toxique, en tout cas le nombre est un peu élevé compte tenu de la crise, depuis l'avènement de la crise, en tout cas avec la circulation des...
La crise politique.
De 2002, il faut dire que la drogue circule beaucoup. Donc les jeunes se sont beaucoup adonnés à la prise de ces produits-là. Donc ce qui fait que ce qu'on reçoit actuellement, il faut dire que la tranche a varié de 15 à 35-40 ans. Et pour des causes de prise de toxique et puis quelques femmes qui nous viennent pour des problèmes de dépression aussi.
Donc une crise politique qui date quand même de 2002 et qui a laissé de nombreuses traces avec son lot de morts et les traces de dépression qui existent encore et la drogue qui circule beaucoup. Quels soins sont prodigués aux patients au centre Victor Wally?
J'ai pas bien compris.
Les soins qui sont prodigués aux patients, les activités qui leur sont proposées également et la façon dont vous les prenez en charge.
Au niveau du centre, d'abord, il y a des soins médicaux, la prise des médicaments. Et puis, on a instauré aussi des activités pour les occuper. voilà, les activités telles que le Quamam, qui est une réunion voilà, quotidienne qu'on fait, où on essaie de responsabiliser, donner aux patients des responsabilités, voilà, de leur permettre aussi de s'exprimer, de parler de ce qu'ils ont vécu pendant leur maladie, pour aussi aider ceux qui viennent d'arriver. Voilà.
Les accueillir. Aussi,
voilà, les accueillir au coup, voilà, on les accueille, on leur présente le village, on les prend, on les amène dans le village, les présenter. En tout cas, on fait beaucoup de choses avec ces patients qui viennent. Il y a une autre activité aussi qu'on appelle le Kolokota, en langue locale, qui veut dire, et puis en français, qui veut dire la main dans la main. Et au cours de cette activité-là, nous partons en balade. On joue ensemble, on joue au foot, on fait des jeux de société. Et on arrive même à faire des repas, à partager des repas avec ces personnes-là. Voilà, pour ne pas qu'ils se sentent un peu discriminés.
Et la main dans la main, c'est aussi mettre la main des patients dans celle de membres de leur famille. C'est quelque chose que vous pratiquez dans ce centre Victor Wally. On a bien entendu que les patients circulaient beaucoup dans le village, que vous les présentez aux habitants, il y a des interactions. Et quand ils sortent du centre, est-ce que ces patients, qui ne viennent pas tous d'ailleurs du village, mais parfois de localités un peu plus lointaines, est-ce qu'ils restent suivis pendant un temps ?
Oui, quand ils sortent du centre, ça c'est primordial parce que après les soins d'avoir, c'est le suivi qui est très important parce qu'il ne faut pas soigner quelqu'un et puis après le délaisser dans sa communauté. Voilà, là où il était, là où il était stigmatisé, où il était discriminé, s'il n'y a pas de suivi, qu'il n'y a pas une sensibilisation même de sa communauté autour de sa personne, de la maladie. Voilà, que cette personne a vécu, vraiment, c'est que le travail n'a pas été fait. Donc, on fait le suivi, on va dans la communauté, dans sa communauté d'abord pour sensibiliser. Il faut dire aussi que pendant son séjour au centre, on essaie aussi de sensibiliser les parents qui sont là sur la question de la maladie mentale. Voilà.
Une dernière question, Monsieur Bichon. Pardon, une dernière question. Le temps file, on va arriver à la fin de cette émission. Juste pour savoir si vous avez si vous disposez des financements dont vous avez besoin, si l'État ivoirien notamment vous aide ou si vous dépendez uniquement des subventions ou des financements internationaux.
On n'a pas de financement venant de l'État de Côte d'Ivoire. Là, la seule subvention que nous recevons, ça provient de nos partenaires français qui sont à la botte, qui nous apportent des appuis en médicaments. Sinon, à part ça, il n'y a pas de financement international, nous venant des ONG aussi, voilà.
D'accord, pour vous, c'est strictement français. Je vous remercie beaucoup, Monsieur Bichon, d'avoir été avec nous depuis Trinlé-Diapleu. On entendait les enfants du village autour de vous. D'ailleurs, vous êtes le directeur du centre Victor Wally. Un tout petit mot de conclusion, Elisabeth Adosio et Laure Vollemark, sur la question des financements, on entend bien. Aujourd'hui, tout ça repose aussi sur la bonne volonté des bénévoles. La fin de l'USAID aussi, peut-être, va remettre en cause pas mal de projets. Comment, Laure Vollemark, on en parle aujourd'hui au sein notamment de MSF?
Alors la particularité de Médecins Sans Frontières, c'est d'être financé par des dons privés, en immense majorité, oui, ce qui donne une forme de latitude par rapport à ça, mais il y a quand même une inquiétude pour les autres, bien sûr, organisations qui participent à l'aide humanitaire.
Elisabeth Adosio, en deux mots.
Oui, il y a sûrement des difficultés qui vont se présenter pour la baisse des financements, ça c'est sûr. Mais même pour qui n'a pas ces problèmes comme Médecins Sans Frontières, ils vont se retrouver peut-être avec plus de besoins à absorber, vu le fait que les autres ONG auront peut-être des soucis à pouvoir couvrir tous ces besoins.
Merci beaucoup, Elisabeth Adosio. Je rappelle que vous êtes psychologue clinicienne référente santé mentale en soutien psychosocial à Action contre la faim en Afrique centrale. Merci beaucoup, Laure Vollemark, psychologue clinicienne également. Vous travaillez, vous écrivez beaucoup dans la revue Alternative Humanitaire et vous êtes chercheuse associée au CRASH, le centre de réflexion sur l'action et les savoirs humanitaires adossé à la Fondation Médecins Sans Frontières. Merci beaucoup. C'est l'heure de la revue de presse internationale.
France Culture, la revue de presse internationale. Catherine Dutu.
La Chine a lancé des exercices militaires surprises, entre guillemets, de grande ampleur autour de Taïwan, Catherine.
Avec des navires de guerre, des avions et porte-avions, tirs réels de longue portée et simulations de frappes aériennes terrestres sur des ports et des infrastructures énergétiques clés. Triple objectif. Officiellement, explique le journal Global Times et l'hebdomadaire chinois Keixin, Pékin dit tester les capacités de ses troupes pour encercler, verrouiller Taïwan. Il s'agit aussi de lancer un avertissement sévère contre les séparatistes de Taïwan, rapporte le South China Morning Post, sachant que Pékin considère Taïwan comme une partie de la Chine qui doit être réunifiée par la force si nécessaire, rappellent CBS News, Le Guardian et le South China Morning Post. Mais c'est aussi une manière de tester la détermination des États-Unis pour assurer la dissuasion dans le détroit de Taïwan, s'accordent à dire CNN et le New York Times. Le tout dans un bras de fer commercial entre Washington et Pékin, analyse Nikkei Asia, puisque c'est aujourd'hui que Donald Trump doit annoncer de nouveaux droits de douane au nom de l'America First, l'Amérique d'abord. La Maison-Blanche abandonne ainsi de vieilles garanties pour ses alliés, relève CNN et CBS News, que ce soit sur le plan économique ou sur le plan sécuritaire. La Chine y voit une fenêtre de tir pour montrer les muscles, alors que Taïwan, démocratie de 23 millions d'habitants, est située à seulement 130 km de la Chine, à son point le plus proche, explique CNN.
Escalade militaire et rhétorique de Pékin.
Le signe pour Nikkei Asia, le New York Times et la NPR de l'exaspération grandissante du géant communiste face à Taïwan, et ce depuis que Lai Ching-te a été élu président de l'île en 2024. Il défend l'indépendance de son pays et a qualifié à la mi-mars la Chine de force hostile étrangère, rappelle la NPR. Le président taïwanais a même détaillé une quinzaine de mesures pour lutter contre l'espionnage chinois, et ça lui vaut aujourd'hui d'être comparé à un parasite dans le cadre de la propagande chinoise, comme le soulignent Le Guardian et CNN. L'armée a bombardé les réseaux sociaux de messages et de vidéos nationalistes montrant notamment Lai Ching-te sous la forme d'un insecte de dessin animé tenu par des baguettes au-dessus de Taipei en feu. Une tentative ratée, selon la BBC, de vanter aussi auprès des jeunes chinois l'opportunité que serait une invasion ou un blocus de Taïwan. Cela montre clairement que la Chine rompt avec une approche relativement prudente depuis l'élection de Donald Trump, estime Le Guardian. La Chine continentale a annoncé ce matin des exercices aériens, des exercices navals, mais nous serons également attentifs au développement connexe, prévient Wellington Koo, le ministre de la Défense de Taïwan, dans une vidéo du South China Morning Post et de la chaîne télévisée taïwanaise Next TV. Bien sûr, nous serons attentifs également au mouvement du porte-avions chinois Shandong au large du sud-est de Taïwan, ainsi qu'aux éventuels mouvement terrestre. La Chine mène régulièrement, on le sait, des exercices militaires pour préparer un encerclement de Taïwan, mais il est rare de ne pas donner de préavis, estime CBS News. Pékin semble donc, depuis hier, répondre aussi à la visite dans la région du ministre de la Défense états-unien, Pete Hegseth, qui semble, selon une note confidentielle que s'est procurée le Washington Post, avoir réorienté l'armée américaine pour donner la priorité à la dissuasion contre la Chine face à Taïwan. Un nouveau signe que l'Indo-Pacifique sert de théâtre d'affrontement entre la Chine et les États-Unis.
Et pour finir, Catherine, vous nous parlez de deux records aux États-Unis.
Avec tout d'abord le scrutin judiciaire le plus coûteux de l'histoire américaine. 98 millions de dollars ont été dépensés dans la campagne pour un siège à la Cour suprême dans le Wisconsin, dans la région des Grands Lacs. Un scrutin habituellement d'ampleur locale, note le Washington Post. Mais l'administration Trump a tenu à faire gagner le candidat républicain. Elon Musk a sorti 25 millions de dollars de sa poche, expliquant aussi sur son réseau social X qu'une petite élection pourrait déterminer le destin de la civilisation occidentale. La NPR rappelle que le milliardaire avait un intérêt bien personnel dans ce scrutin. Tesla a intenté un procès contre l'État du Wisconsin pour obtenir le droit de vendre des voitures directement aux consommateurs sans passer par l'intermédiaire de concessionnaires. Eh bien, malgré les 25 millions qu'Elon Musk a dépensés, c'est Susan Crawford, soutenue par les démocrates, qui a remporté un siège à la Cour suprême du Wisconsin hier. Et c'est un coup dur pour Donald Trump, rappelle rappelle The Hill, qui avait lui parlé d'un désastre pour les États-Unis si la démocrate était élue. Ce ne sont pas des temps normaux aux États-Unis. C'est ému de son côté le démocrate Cory Booker, qui a battu hier soir le record le plus long d'un discours prononcé au Sénat, un marathon oratoire de 25 heures suivi en direct par le magazine Newsweek pour s'élever donc contre l'administration Trump, rapporte The New Jersey Monitor. Ce n'est pas une question de gauche ou de droite, c'est une question de bien ou de mal, a lancé le démocrate qui a fustigé les politiques menées par Donald Trump et Elon Musk dans un mépris total de la Constitution, dit-il, à propos des coupes budgétaires, de l'immigration ou encore des droits des personnes LGBT.
Et quelque chose me dit qu'il sera question de ce discours de 24 heures et 5 minutes, précisément ce discours démocrate dans l'émission Culture Monde, présenté par Mélanie Chalandon ce vendredi pour parler plus généralement de la façon dont les démocrates aujourd'hui aux États-Unis se positionnent face à Donald Trump. Ça sera difficile de résumer d'ailleurs un discours de 25 heures en 40 minutes. Dans un instant, les midis de culture.